Bonjour à toutes et à tous, il est midi 15 ou 18h si vous nous écoutez en rediff. Vous écoutez Radio BLV 93.6, bienvenue dans La Locale, le coup de projecteur sur celles et ceux qui font le territoire. Aujourd'hui c'est Kat et Sylvie qui vous accueillent, bonjour Kat.
Bonjour.
Et Clément qui assure la régie, bonjour Clément.
Bonjour.
Alors au sommaire de cette locale du mercredi 29 juin, pas du tout, du mardi 28 juin, voilà, il fallait la faire, du mardi 28 juin, de quoi et avec qui allons-nous parler, chère Kat ?
Donc aujourd'hui, le 28 juin, nous donnons la parole à Laetitia Charbonnier, directrice de l'Équipé pour le Festival de cinéma d'animation de nuit, elle sera au téléphone avec nous. Ensuite, à Monica Fioriello qui nous parlera de solidarité habitat, l'habitat intergénérationnel. Et enfin, Jeanne Favra de Ados nous proposera la chronique Ritimo Doc. Et bien sûr, comme d'habitude, les infos et sorties du jour.
Merci Kat. Alors, Laetitia Charbonnier, directrice de l'Équipé pour le Festival de cinéma d'animation de nuit, tu nous disais, Kat. Bonjour Laetitia, d'abord.
Bonjour Sylvie, bonjour Kat.
Et bienvenue à l'antenne. Alors, après le festival d'un jour qui dure une semaine, voilà le festival de nuit qui dure deux nuits. On est d'accord?
Mais oui, on devient cohérent, c'est formidable. Mais peut-être que dans quelques années, elle durera trois nuits et on va retrouver le même délire. Mais bon, ben voilà, on s'est dit que ce serait rigolo quand même.
C'est la grande sagesse qui vient dans l'Équipé. Non, j'y crois pas.
Si, c'est bien dit. C'est très bien dit.
Allez, trêve de plaisanterie, les 8 et 9 juillet. Donc, vous allez mettre une grande animation à la cartoucherie, c'est le cas de le dire. Pourquoi cette volonté de faire de proposer un festival en juillet?
Alors, c'est avant tout de pouvoir investir le nouveau parc Bernard Piras, qui a été inauguré, si ma mémoire est bonne, en avril 2021, dans le chaos du Covid. On était très peu nombreux ce jour-là, je me souviens, alors que ce parc, on l'attendait depuis longtemps. Il vient ouvrir notre site de la cartoucherie qui regroupe des structures qui travaillent, qui fabriquent des choses, mais bon, qui ne sont pas ouvertes au public. Même si nous, on est l'acteur d'ouverture du public autour du cinéma d'animation. En tout cas, ce parc permettait d'être un lieu ouvert au public et contre la cartoucherie, et donc de créer vraiment cette ouverture sur le quartier. C'était le premier envie, c'était d'investir ce lieu pour proposer au public de venir y découvrir du cinéma d'animation.
Et de faire du coup la passerelle avec la cartoucherie.
De faire la passerelle avec le site et ces structures qui fabriquent du cinéma d'animation. Et ben voilà, de l'autre côté du site, côté parc, c'était montrer des films. Alors pas forcément des films qui sont fabriqués sur le site, mais du cinéma d'animation. Et puis aussi, moi, je trouve intéressant par rapport au festival d'un jour qui a lieu à la fin de l'hiver, de faire un écho. Donc côté estival, qui nous permet de sortir des salles et donc de rencontrer le public de façon différente. Je trouvais intéressant dans notre paroisse de l'éducation, de l'ouverture, de la sensibilisation, de proposer un autre type de projection et donc de sortir de la salle. Donc ça, c'est évidemment pour y ramener les gens, bien sûr, au festival d'un jour suivant.
Oui, bien évidemment. Et puis en général, d'ailleurs, que les gens retournent aussi un peu en salle, c'est important. Donc là, ce sont deux jours donc de cinéma en plein air que vous nous proposez, du cinéma d'animation On est bien d'accord, on reste dans le cœur du sujet. Et avec, mais avec d'autres, voilà, vous avez aussi, vous avez saupoudré différentes autres propositions.
Oui, bon, on avait envie de, pour cette première édition, de s'associer aux festivités liées aux 20 ans de l'école de la Poudrière. L'école de la Poudrière, c'est une école qui est installée sur le site de la Cartoucherie depuis le début de l'ouverture du site. Au cinéma d'animation, puisqu'on sait que ce site date de 1850, hein, donc la Poudrière ne date pas de 1860, mais bien donc de l'ouverture, il y a une douzaine d'années, du site au cinéma d'animation. L'école de la Poudrière donc forme une dizaine d'étudiants par an à la réalisation de films. Ce sont des étudiants réalisateurs et ils fêtent leurs 20 ans et on avait envie de pouvoir mettre un éclairage sur ces auteurs qui sont formés depuis toutes ces années. 189 auteurs formés en 20 ans, c'est quand même
exceptionnel,
c'est pas mal. Et donc on présentera deux longs métrages qui ont été réalisés par deux réalisateurs qui sont des anciens étudiants de l'école de la Poudrière, hein, qui étaient de mémoire étudiants dans les années 2005. Ça fait un bail qu'ils sont sortis de l'école, mais bon voilà, ils ont fait donc deux longs métrages, donc Benjamin Renner et Rémi Chaillet, pardon, Rémi Chaillet et Benjamin Renner, bon. Et par ailleurs, on présente, donc ça c'est des longs métrages familiaux, hein, pour public familial, les deux soirs, vendredi soir et samedi soir.
Et puisque donc le vendredi, on a Tout en haut du monde, donc de Rémi Chaillet, et le samedi 9, donc en première partie de soirée, c'est Ernest et Célestine, avec deux notamment Benjamin Renner.
Voilà. Et en deuxième partie, samedi soir, après Ernest et Célestine, on propose un programme de court-métrage, de films d'étudiants cette fois-ci, de films qui ont été réalisés par ces 189 réalisateurs formés au moment où ils étaient étudiants à l'école de la Poudrière. C'est des films très courts, très dynamiques, sur des thématiques très variées. Je crois qu'il y a 70 films programmés, mais sachant qu'il y a certains films, une grosse partie d'ailleurs, qui font une seconde. Voilà. Des films de 1 minute et des films de 3 minutes. Voilà, tout ça sur une heure de programme, samedi en deuxième partie de soirée.
Et toujours au même endroit, par contre, voilà, on est en extérieur, on s'installe
sur la pelouse, voilà. Alors on s'installe sur la pelouse, donc si on a envie d'apporter un petit coussin, une petite couverture, il ne faut pas hésiter. Et puis il y aura aussi des espaces pour se restaurer, mais se restaurer...
Ah, allô ? Ah, on vous a perdu. Allô ?
Ah.
Il y a eu un problème, voilà. Mais alors, on va finir. On va finir sans Laetitia. Bon, vous avez vu l'enthousiasme de Laetitia. Le téléphone n'y a pas résisté. c'est à retrouver en tous les cas le festival donc de nuit, 2 comme le chiffre 2. C'est les 8 et 9 juillet. Au parc Bernard Piras à Bourg-lès-Valence. Donc, le parc Bernard Piras, vous l'avez compris, c'est le parc qui jouxte la Cartoucherie. Et donc, on le disait, c'est le vendredi soir, donc Tout en haut du monde, un très beau film d'animation de Rémi Chaillet. Et puis Ernest et Célestine, on n'en parle même plus parce que tout le monde connaît, le samedi soir, avec à suivre Les cours de nuit, donc les films de la Poudrière. Alors il faut savoir aussi qu'il y a un partenariat avec le Centre du patrimoine arménien et le pays d'art et d'histoire pour, alors le Centre du patrimoine arménien, notamment pour l'exposition Luigi est parti le premier qui se déroule en ce moment avec des décors du film Luigi est parti le premier de Alain Huguetto, je vais y arriver, film d'animation et qui a été primé d'ailleurs, dernièrement. Et puis le pays d'art et d'histoire qui vous proposera de visiter la Cartoucherie ben justement sur le, sous l'angle de son évolution historique. Et Dieu seul sait si elle a une histoire dense et forte. Voilà, ben tant pis pour pour Laetitia.
Parce qu'on avait un teaser en plus sur la restauration. Elle avait l'air de vouloir dire que c'était spécial.
Voilà, mais alors, non, justement, voilà. Vous êtes obligés maintenant d'y aller pour voir, pour voir ce qui vous sera proposé aussi en termes de restauration. Merci beaucoup. Alors, on souhaite un très bon anniversaire à Madame Odile Poirier, qui a fêté hier ses 104 ans à la résidence du Moulin des Prés, rue des Loisirs, à Bourg-lès-Valence. C'est une des doyennes des Bourquins et Bourquaines. Bon anniversaire, Madame.
Bon anniversaire. Aujourd'hui, mardi 28 juin donc, on le redit parce que ça a du mal à rentrer, à 18h et 20h au Clévaux à Étoile-sur-Rhône, deux concerts de musique de chambre vous sont proposés par les grands élèves du Conservatoire Valence-Roman Aglo. Ce sont des étudiants, des étudiantes en cycle d'orientation professionnelle. Ces grands élèves, donc, joueront des répertoires variés mettant en exergue les qualités indispensables aux musiciens. Écoute de soi et de l'autre au sein du groupe, autonomie, jeu d'interaction, échange et plaisir de transmettre. Alors, l'entrée est libre, mais il faut réserver auprès du conservatoire sur le site de Valence au 04 75 78 50 80.
Et à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi, la roulotte de la nature de la LPO s'installe à Chabeuil devant le centre culturel. Alors cette roulotte est un outil ludique et pédagogique à destination des adultes autant que des enfants. Et rendez-vous ce soir, donc mardi 28 juin à 20h, vous l'avez bien compris, ça ne bouge pas d'une minute à l'autre, pour le spectacle « Ça me hérisse » de la compagnie Apatride à vivre en famille. Et vous suivrez l'épopée rocambolesque décalée pleine d'humour de trois voix de nos jardins dans ce spectacle, donc ce soir 20h à Chabeuil.
Demain, toujours à Chabeuil, demain mercredi 29 juin, de 10h à 17h, faites un voyage dans la roulotte, toujours la roulotte de la LPO, à travers le temps. Waouh ! Pour mieux comprendre comment sauvegarder la nature dans l'escape game du Dr Piaf. C'est pour 6 participants maxi par séance et des enfants de moins de 10 ans accompagnés. Après, ça continue avec un speed dating SOS Nature de 20h à 21h, l'occasion de savoir comment aider les animaux en déclin en tant que citoyen de la nature. Et pour finir la soirée en beauté à partir de 21h, un bal dansons la nature avec Faucon Folk, possibilité de se restaurer avec un food truck sur place et une buvette avec de l'eau fraîche. Et peut-être du thé, s'il fait encore frais.
Et ce joli festival de la roulotte nature de la LPO à Chabeuil se terminera vendredi 1er juillet avec du cinéma en plein air, là aussi, pour petits et grands. À 20h30, Les Mal-Aimés, 4 courts-métrages d'animation sur des petites bêtes pas si terrifiantes, réalisés par Hélène Ducrot de l'agence Citrombien de Valence. Et Citrombien Cinéma, avec qui vous pourrez échanger à la suite du film. Et puis à 21h30, Gus, Petit Oiseau, Grand Voyage, un film d'animation français réalisé par Christian De Vita. À l'heure du départ pour la migration annuelle, Darius, le doyen de la volée, est blessé. Il confie alors le nouvel itinéraire du voyage au premier oiseau venu. Le candidat est un petit oiseau jaune, excentrique et enthousiaste, mais pas du tout migrateur.
Et voici le moment de notre deuxième invité qui est en studio, donc qui ne risque pas d'être coupé, sauf tremblement de terre. Bonjour Monica Fioriello.
Bonjour.
Tu es responsable de l'association Pareil. Solidarité Habitat, qui organise une proposition d'habitat intergénérationnel dans la Drôme. Est-ce que, même si ça parle un petit peu, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste l'habitat intergénérationnel? Est-ce que vous proposez?
Alors, c'est vrai que maintenant, on fait de l'habitat intergénérationnel. La dernière fois que j'étais venue sur Radio BLV, on faisait juste de la cohabitation intergénérationnelle. C'est subtil. Hein. Donc, la cohabitation, c'est une personne en général âgée, mais pas forcément, qui va mettre à disposition chez elle une chambre, avec un accès évidemment à la cuisine et à la salle de bain, pour un jeune un étudiant, un stagiaire, quelqu'un en CDD ou quelqu'un qui peut être moins jeune, qui peut avoir 45 ans et qui vient sur une période donnée faire un projet professionnel sur le territoire. Voilà, donc c'est vraiment de l'hébergement chez le particulier. L'association, elle accompagne la cohabitation du début jusqu'à la fin. Et depuis un an, on développe deux nouveaux projets d'habitat intergénérationnel. Donc, il y en a un, c'est justement dans les résidences autonomie, où, pareil, il y a un studio, un appartement qui est mis à disposition pour un jeune qui vit dans la résidence autonomie en échange d'un tout petit loyer, même une toute petite participation financière, on va dire, aux charges. Et en échange de cet hébergement, il crée du lien avec les seniors. Donc, la journée, il n'est pas là. Il est en études, en formation, en situation de travail. Et il est là sur du lien social le soir, un dimanche de temps en temps. Et donc, il fait du collectif plutôt que de l'individuel.
D'accord. Alors, mais j'ai envie de dire, du coup, il faut qu'ils soient un petit peu formés, non ? Parce que je me dis, quand j'étais étudiante, comme ça, arriver, puis organiser du collectif avec
des... Ouais, après, c'est vrai qu'il faut avoir surtout pas avoir peur d'aller vers l'autre. Ouais. Après, l'association, elle est là pour l'aider. Alors, il ne va pas faire des grandes animations. Hein. Ça peut être juste, on joue au Monopoly, on organise un petit goûter. Enfin, c'est des petites actions ponctuelles. Et l'association est là vraiment pour l'aider à trouver les idées, à mettre en place. Ça peut être une projection de film. Voilà, c'est des petites choses. Il faut surtout qu'il soit à l'aise et qu'il n'ait pas peur d'être avec 5-6 personnes ou même plus pour faire de l'animation.
Ok, donc il n'y a pas besoin d'avoir une formation particulière. Non. Je pensais au BAFA, bon, c'est peut-être pour les jeunes, mais enfin, c'est vrai qu'on sait faire des animations, juste cette envie-là.
Non, et après, justement, ils peuvent valoriser ça sur leur CV. Parce que comme c'est parfois des jeunes qui n'ont pas encore été en situation de travail, ça fait une super expérience professionnelle pour eux aussi, pour la suite de leur expérience professionnelle. Quoi.
Et alors, il y a qui dans ces résidences autonomie ? Ce n'est pas des EHPAD non plus ?
Non.
EHPAD, ça pourrait, pour tout le monde, c'est maison de retraite.
Voilà. En fait, EHPAD, c'est les anciennes maisons, c'est maisons de retraite, et les résidences autonomie, c'est les anciens foyers de logement.
D'accord. Donc, pour des gens qui n'ont pas besoin de médicalisation.
Voilà, exactement. Qui sont encore un petit peu autonomes, on va dire. Mais ils peuvent avoir quand même un déambulateur, avoir des problèmes psy ou des problèmes de santé, mais qui sont quand même en capacité de participer et peut-être même d'aller faire leurs courses, de sortir de la résidence autonomie. Quoi.
C'est un super projet. Et du coup, si on a envie, en tant que personne âgée, d'être dans une résidence autonomie où il se passe ça, c'est-à-dire il y a ce jeune, cette personne qui habite là en permanence, on s'adresse à qui ?
Eh bien, aux résidences autonomie. Après, c'est vraiment une expérimentation. Donc, on développe ce projet. On l'a démarré il y a un an. Donc, maintenant, je pense que, on commence à prendre nos marques et que les autres structures observent ce nouveau projet qui va être, j'espère, dupliqué dans toutes les résidences autonomie de la Drôme. et après, il y a un dernier projet qui va démarrer de façon imminente sur Valence, avec un bailleur social qui nous a mis à disposition deux studios dans un immeuble en rez-de-chaussée avec une salle d'animation et dans un immeuble où il n'y a que des personnes âgées ou handicapées. Voilà, et pareil, les jeunes vont vivre dans le studio, enfin chacun dans leur studio, et créer du lien à l'intérieur de l'immeuble, mais aussi avec la Cité des aînés qui est à côté et qui est un EHPAD. Et on va essayer d'accompagner les jeunes et les résidents sur une ouverture sur le quartier pour pouvoir proposer aussi des actions plus collectives et plus ouvertes vers l'extérieur. Voilà.
Et quand tu dis participation financière petite, j'avais regardé un petit peu ce que vous faisiez, moi, sur la cohabitation en préparant cet entretien. Et j'avais vu que tu parlais en 2019 pour la cohabitation, il ne faut pas que je me trompe de mot, pour la cohabitation de 40 à 120 euros. Donc ça, c'est l'habitat chez des gens.
Oui, c'est ça.
Et c'est, c'est du même ordre d'idée.
Oui, même moins. Enfin, c'est entre... 50, 70 euros, on va dire.
Pour de la cohabitation.
Voilà, pour de l'habitat partagé, en fait.
Voilà, les deux, en fait. Disons que c'est même moins cher pour l'habitat partagé, c'est ce que
Tu dis. Voilà, et en moyenne, c'est 80, on va dire, sur la Drôme par mois.
D'accord,
voilà, c'est 80 euros par mois.
Oui. Et si on veut candidater côté jeune, alors on contacte l'association Solidarité Habitat en disant, moi, ça me plaît et j'ai envie de faire ça.
Et on fait un entretien avec le jeune, on lui explique précisément en fonction du projet sur lequel il va postuler. Et puis après, on va faire on va aller on va l'emmener en fait soit chez l'hébergeur pour qu'il se rende compte, qu'il visite l'hébergement, soit dans la résidence autonomie, soit dans ce futur projet là qui va bientôt démarrer. Et après, chacun prend quelques jours de réflexion. Et une fois que tout le monde est d'accord, l'hébergeur, le jeune, la structure, eh ben on conventionne, on formalise cette cohabitation à travers un contrat, voilà, qui reprend différents éléments et qui met un cadre à ce mode d'hébergement.
Et c'est pour ça, j'imagine, que vous avez annoncé en mars, vous annonciez une animatrice de projet d'habitat intergénérationnel qui venait compléter votre équipe, Aude, je crois, de mémoire, mais...
Voilà, qui s'occupe donc d'accompagner les jeunes dans cette animation. Et là, on va même prendre deux services civiques pour s'il y en a qui veulent candidater, hein, je fais ma pub au milieu.
Non, bah, bien
raison.
Donc, on cherche deux jeunes en service civique pour, pareil, aider dans l'animation, rencontrer les seniors, être en lien avec eux sur le territoire.
Oui, parce que c'est un énorme travail de contact d'abord et puis d'accompagnement ensuite. Parce que ce qui me paraît intéressant dans le projet, c'est que ce n'est pas seulement une mise en relation, mais que vous restez présent. Parce que, bon, comment dire, dans toute relation humaine, il peut y avoir des moments où on ne se comprend pas, des différences de mode de vie qui font qu'il y a besoin de remettre du liant.
C'est ça, tout à fait. Exactement. En fait, tous les mois, il y a besoin. Enfin, on appelle l'hébergeur, les hébergés, on fait un suivi de la cohabitation tout du long parce que, effectivement, régulièrement, il y a besoin de rappeler des petites règles de la cohabitation. Et en général, il suffit de les rappeler et le jeune, il le fait. En fait, souvent, c'est des jeunes, c'est une première décohabitation, ils étaient chez leurs parents. Donc, aller au tri, par exemple, on fait beaucoup de tri aujourd'hui. Et donc, aller au tri, donc on le fait, il n'y a pas de problème. Tous les jeunes, ils sont même mieux que nous. Mais par contre, se dire, ah bah tiens, je vais prendre le sac,
sortir
les poubelles, et puis je vais aller le vider. Bah, ça, il y a des fois besoin de remettre des petits... C'est un exemple parmi plein, mais voilà, c'est vrai qu'il y a besoin de temps en temps de faire ça. Et si on veut que ça dure, la cohabitation, bah, l'accompagnement de l'association est vraiment... c'est le cœur de l'action, en fait, je dirais. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne et que ça dure le temps de la cohabitation et même au-delà, en fait.
Mais j'ai l'impression que c'est très rassurant pour tout le monde, côté hébergeur comme côté hébergé, de se dire on ne sera pas seul en face à face.
C'est ça, ce qui permet aussi à la personne âgée d'ouvrir sa porte, hein, parce qu'on ouvre quand même une porte à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mmh. Et le fait qu'il y ait une structure derrière qui accompagne, s'il y a besoin, et ben c'est très rassurant. Puis surtout qu'on peut leur proposer... Voilà, d'essayer pendant 2-3 mois, pour une première fois, chacun en fait...
Oui, il n'y a aucun risque, enfin, tout est vraiment... Il y a un cocon.
Oui, exactement, tout est cadré.
Tout en douceur, j'allais dire, c'était la
même idée. Et si ça ne se passe pas bien, parce que ça arrive, bon, je ne vais pas parler de... Mais il y en a une en général sur les 60 et plus de 60 qu'on fait par an qui ne se passe pas bien, mais on met un terme et on aide le jeune, si c'était de la part du jeune, à retrouver une autre solution d'hébergement, parce que peut-être qu'il ne s'était pas rendu compte, finalement, il se dit, oh là là, j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire plus de choses, d'être plus indépendant. Et pareil, du côté de la personne âgée, parfois, on ne se rend pas compte, et donc voilà, on accompagne l'hébergeur comme l'héberger vers une autre solution si nécessaire.
Je voulais juste, tu as parlé de durée. Quelle est la durée moyenne de ces contrats, de ces habitats? Parce qu'on a parlé d'étudiants, on a parlé de jeunes en stage, jeunes et moins jeunes en stage. Est-ce que c'est fait pour que ça soit des choses à long terme ou est-ce que ça reste, si c'est important, que ça tourne et donc que les jeunes, notamment une fois les études terminées, s'arrêtent par exemple?
Oui, alors après, il y a tout type de cohabitation. Il y a, en général, la moyenne au niveau de l'association, c'est 8 mois. Mais parce qu'il y a des cohabitations qui durent l'année scolaire, il y en a qui durent 4 ans. Après, s'ils sont bien...
On ne les empêche pas de rester ensemble.
Non, voilà. On ne les empêche pas de rester ensemble. Et puis, il y a vraiment un besoin sur le territoire aussi qui répond à une plus courte durée. Notamment, ça peut être des stagiaires de 3-4 mois ou de 6 mois, ou même des CDD, tout simplement, des jeunes qui viennent faire des CDD de 2-3 mois. Donc, on n'a pas... Enfin, pour 15 jours, on évite, parce que nous, ça demande beaucoup de travail pour la mise en relation, les documents, tout ça. Mais on peut aussi... Voilà, en général, ça va de 1 mois à une année scolaire, voire plus quand la cohabitation se passe très bien.
Sylvie, tu avais une autre question, j'ai l'impression. Non, parce que je me demandais, moi, du coup, ça prend du temps. donc des personnes qui s'en occupent. Donc, ça a un coût qui n'est pas répercuté ni sur les hébergeurs, ni sur les hébergés. Je vais y arriver, d'après ce que tu dis. Donc, j'imagine que vous avez des financeurs. À l'époque, en 2019, il y avait le Conseil départemental et l'agglomération de Valence-Romans. Et quand on regarde votre site, aujourd'hui, il y a tout un tas de logos impressionnants, mais je comprends pourquoi, parce qu'il y a du personnel à financer. Ouais. Et ça vaut vraiment le coup, je pense, pour que ça se passe bien. Alors, qui sont vos financeurs qu'on doit remercier, finalement, pour cette action ?
Eh bien, effectivement, le département de la Drôme, la CAF aussi, qui participe vraiment au développement de la structure depuis quelques années. La CNAV également.
La CNAV,
La Caisse nationale d'assurance vieillesse, voilà. Qui prennent en charge, en fait, une partie aussi, et la CAF aussi, des cotisations. En fait, quand même, les hébergeurs et les hébergés, ils payent une petite partie. Hein, c'est variable. En gros, quand on fait une cohabitation d'un an, ça va de 75 à 100 euros par an. Et la CAF prend en charge pour les jeunes une partie. Donc, du coup, ils payent à peine la moitié. Et pareil pour les hébergeurs. Voilà. Après, on a toujours l'aglo hein, qui nous soutient, la MSA, la CPAM, la région.
Donc, la CPAM, c'est l'assurance maladie. Voilà, la région, ça continue MSA, parce que c'est variable.
C'est ça, exactement. Oui, parce qu'il y a pas mal d'effets aussi d'impact positif sur l'état de santé. Oui. Des seniors, hein, parce que quand ils arrivent, souvent c'est suite à un décès, donc on se retrouve dans une grande maison, on a des angoisses, et voilà, il y a vraiment. Et puis le fait d'être avec un jeune, de manger avec lui le soir, ben on se met à manger. Enfin, y a plein de choses qui font qu'au niveau du moral et de la santé, d'une manière générale.
Et on allonge l'autonomie par ce biais-là.
Exactement. Et ça prolonge l'autonomie chez soi.
Chez soi.
Voilà, ça permet vraiment un maintien de vivre chez soi le plus longtemps possible. Et c'est aussi un souhait aujourd'hui de tous les seniors, hein, toutes les personnes âgées. Et puis le papy-boom arrive bientôt, donc il va falloir.
Et le mamie-boom.
Papy-mamie-boom.
Paraît-il qu'on vit plus longtemps que ces messieurs. Mais pour le jeune aussi, j'ai l'impression que c'est chouette parce que ça doit aussi aider aux études, au moins la première année. Je me rappelle, voilà, le jeune, la première année, il aime quand même bien avoir un cocon. Puis après, en deuxième, troisième année d'études, c'est un peu plus la fête et on est prêt à s'envoler.
Voilà. Oui, c'est ça.
Donc, un chouette projet.
Ouais.
Bon, merci beaucoup d'être venu nous voir.
Merci à vous de m'avoir invité.
Quand même, les contacts, si on veut vous contacter. Oui. Donc, pour les gens à l'aise avec Internet, on tape Solidarité Habitat Valence et tout sort, le site. J'ai vu que vous aviez des permanence. On trouve aussi le numéro de téléphone sur le site, peut-être.
Oui, tout
on
à
en
fait.
Donne un des deux, le
oui, si vous
fixe
voulez,
ou le portable.
Comme vous voulez.
Comme je veux. Oui. Allez, le fixe, comme ça on peut envoyer. Le portable, comme ça on peut envoyer des textos. 06 31 74 48 88. Et vous tenez des permanences aux deux maisons de l'habitat de Valence et de Romans. Alors à Valence, vous êtes les premiers mercredis du mois le matin et à Romans l'après-midi. C'est votre journée permanente.
C'est ça, exactement.
Merci beaucoup.
Merci.
Et à bientôt.
Merci, Monica. Alors, à partir de demain, mercredi 29 juin, j'ai bien dit demain, et jusqu'à dimanche 3 juillet, la compagnie École Indice 2 vous invite à vivre les 14e rencontres de théâtre de Bourg-lès-Valence. Comme chaque année, la compagnie présente les spectacles de fin de saison de ses ateliers de pratique amateur dispensés à Bourg-lès-Valence. Alors, rendez-vous à la salle de vote 1 Place de la Liberté, toujours à Bourg-lès-Valence, pour ces différents spectacles. Alors, mercredi, donc demain, c'est à partir de 20h, jeudi 21h, vendredi 21h, samedi c'est dans l'après-midi jusqu'au soir et dimanche c'est pareil. De toute façon, attention parce que le nombre de places est limité, alors la réservation est obligatoire. Pour ce 09 79 54 02 16, 09 79 54 02 16, sinon vous allez sur le site internet de la compagnie Indice 2, ça fonctionne aussi. C'est en participation libre à partir de 5 euros et gratuit pour les moins de 8 ans.
Nous passons désormais à jeudi, qui sera le 30 juin. Je crois que j'aurais jamais autant appris le calendrier que pour cette locale. Ce jeudi à 20h, rendez-vous au Creuset de Méman de Beauregard-Barret, où est programmé le souffle des mers, des virevolantes. Alors j'étais étonnée que ce ne soit pas les virevoltantes.
Non, c'est vraiment les virevoltantes.
Mais c'est vraiment ça. Un spectacle conte et musique dès 14 ans qui sera suivi d'échanges autour d'un buffet partagé. Il vous est demandé de prévenir de votre venue. Alors, je ne crois pas que je vais vous dire les numéros de téléphone, vous n'aurez pas le temps de noter, mais peut-être le mail Creuset. creuset.memans@yahoo.fr. Et là aussi, c'est prix libre, mais on conseille un minimum de 10 euros.
Très joli spectacle des Vires Volantes, qu'on salue. Jeudi également, eh bien, Jazz Action Valence fête ses 30 ans à la, musique de la, à la maison pardon, de la musique et de la danse avec le Jav Contrebande, les professeurs de Jav, David Binks et d'autres invités. Alors, apparemment, la soirée est complète. Mais écoutez Laurent Coquelair, le directeur, qui demain en parlera de cette belle aventure de Jazz Action Valence dans la locale. Donc, rendez-vous à 12h15.
Alors, samedi 2 juillet, je suis désolée, Jav, mais vous êtes battue parce que ce sont les 100 ans du football club de Chabeuil. Alors certes, ce n'est pas la même ambiance, hein, on est bien d'accord. Mais alors, ils nous ont concocté un super programme, une expo photo de 1920 à nos jours. Bah oui, ça fait 100 ans, ils ont gardé des archives, c'est super. À 10h30, un match des anciens de Chabeuil. Alors anciens de 100 ans, je ne sais pas. Puis 11h45, ne ratez pas le match de l'équipe féminine, suivi du repas barbecue à 13h. Ça continue l'après-midi. On peut digérer à 15h devant le match des pompiers de la Drôme contre les anciens pros. Et on peut aussi les rejoindre plus pour la fête en fin de journée à partir de 18h45 avec un show de freestyle. À 20h, un show de danse professionnelle, un repas paella. À 22h30, un feu d'artifice et 23h, une soirée dansante. Alors pour s'inscrire, il y a un mail. Alors là, ils ont créé un mail manifestement pour Centenaire FCC, comme Football Club de Chabeuil, @gmail.com.
C'est vrai qu'on ne parle pas toujours de sport dans cette locale, non pas qu'on manque d'appétence, mais bon, par manque de temps parfois. Mais dès qu'il s'agit de faire la fête, là par contre,
on est là.
Allez, trêve de plaisanterie, on accueille maintenant Jeanne. Bonjour Jeanne.
Bonjour.
Jeanne Favra de Ados. Et alors Jeanne, ben, dernière chronique de la saison, les chroniques Ritimodoc. Et qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, il y a un petit air de vacances qui s'installe. Donc certaines personnes partiront peut-être sur les routes à pied, à vélo ou en voiture. D'autres resteront ici. Mais quels que soient vos projets, vous pourrez, je l'espère, profiter de l'été pour Bouquini. Donc aujourd'hui, je vous parle de 3 ouvrages pour penser le voyage, même en restant à la maison.
Bonne pioche.
Pour commencer, je voulais vous présenter un livre qui, pour certains, n'a plus besoin d'être présenté tant il est devenu une référence du récit de voyage. Je parle de L'usage du monde de Nicolas Bouvier. Dans ce long récit, Nicolas Bouvier raconte une partie du voyage qu'il a entrepris en 1953 en compagnie de son ami Thierry Vernet, qui a illustré tout l'ouvrage. Âgés d'une vingtaine d'années, les deux comparses ont parcouru les routes de la Serbie au Pakistan au volant d'une Fiat Topolino, une voiture pas tout à fait imaginée et conçue pour ce genre de long périple. Si aujourd'hui les tourmondistes, les travailleurs nomades et autres voyageurs 2.0 sont très nombreux et particulièrement visibles sur les réseaux, je souhaite rappeler qu'en 1953, se lancer dans un tel périple demandait un courage extraordinaire. Imaginez que quelques années avant, la guerre s'est terminée, laissant l'Europe partagée par le rideau de fer et que les conditions de vie étaient alors bien éloignées de celles d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, tout au long de ce périple qui les amène en Serbie, Macédoine, Grèce ou encore Iran, Nicolas Bouvier nous raconte son quotidien, ses rencontres surprenantes, ses découvertes, mais aussi ses doutes, ses incompréhensions et ses galères, avec notamment la fameuse Fiat et les longues journées passées alitées avec la fièvre. Les descriptions de Nicolas Bouvier sont à la fois précises et poétiques, émouvantes et souvent drôles. Il aura vraiment fallu à ces deux jeunes Suisses persévérance, confiance et résilience pour se frotter à des environnements et des habitudes de vie si radicalement différentes des leurs. De surcroît, à un moment où guide de voyage et Internet étaient inexistants. Alors si Nicolas Bouvier a eu de nombreuses difficultés à ce qu'une maison édite sans le modifier, le séparer de ses dessins ou le raccourcir, L'usage du monde, ce livre est à terme, devenu une référence et une inspiration pour beaucoup de personnes curieuses du monde. Au tout début de son livre, Nicolas Bouvier raconte C'est la contemplation silencieuse des atlas à plat ventre sur le tapis entre 10 et 13 ans qui donne ainsi l'envie de tout planter là. Songez à des régions comme le Banat, la Caspienne, le Cachemire, aux musiques qui y résonnent, aux regards qu'on y croise, aux idées qui vous y attendent. Lorsque le désir résiste aux premières attentes du bon sens, on lui cherche des raisons. Et on en trouve qui ne valent rien. La vérité, c'est qu'on ne sait comment nommer ce qui vous pousse. Quelque chose en vous grandit et détache les amarres, jusqu'au jour où, pas trop sûr de soi, on s'en va pour de bon. Un voyage se passe de motifs, il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Alors super. Cette citation que beaucoup utilisent aujourd'hui dans les préparations au départ pour montrer à quel point les voyages chamboulent, est très connue, mais c'est quelque chose que je voulais rappeler. Alors, il est certain que Nicolas Bouvier, par son enthousiasme pour le voyage, a marqué des générations de voyageurs et de voyageuses. Et peut-être est-il un peu responsable de cette mode du voyage au long cours qui prend toujours plus d'ampleur. Il n'en reste pas loin que ce long récit d'observation nous interroge et nous fait réfléchir sur notre propre rapport au monde. Donc, je le recommande vivement pour l'été
super,
notamment.
C'est très, très bien écrit.
Ça, c'est sûr. Et très bien illustré aussi. Pour poursuivre justement dans cette optique de réfléchir un peu sur le voyage, je voulais vous parler du guide « Partir pour être solidaire » réédité par Rétimo en 2019. Donc vous le savez peut-être, à l'orée des vacances d'été, beaucoup de personnes réfléchissent à partir en Asie, en Afrique ou encore en Amérique du Sud pour offrir leur aide à des structures qui semblent en avoir besoin. Quelques recherches sur Internet permettent d'être rapidement mis en lien avec associations, écoles, orphelinats locaux. Et moyennant des sommes plus ou moins astronomiques, on peut aller vivre ce séjour de volontourisme. Dans ce guide, Rétimo a ainsi décidé de s'attaquer à ce sujet important. Car si ces projets partent de bonnes intentions, il n'en reste pas moins que les conséquences sont assez souvent dramatiques. Il n'est pas rare, par exemple, de rencontrer des personnes souhaitant aller donner des cours en Afrique, alors que ces dernières n'ont aucune expérience ou compétence en pédagogie, transmission ou savoir ou animation. Une fois sur place, ces personnes se retrouvent souvent en totale autonomie, peu accompagnées et face à des publics qui ne parlent pas forcément leur langue. L'impact d'une telle expérience semble bien limité pour les populations locales. L'objectif de ce guide, c'est donc pas de décourager les personnes ayant des souhaits de séjour solidaire, mais de les accompagner dans leurs réflexions, pour qu'elles puissent avoir un projet pertinent et respectueux du contexte local. Le guide évoque les différents statuts pouvant permettre ce type de projet, les structures de référence pouvant accompagner les jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, et revient en détail sur l'utilité de la préparation au départ, qui permet vraiment de se questionner sur sa posture en tant qu'occidentale dans un pays dit du Sud. Alors, comme toujours, les illustrations de Claire Robert sont à la fois justes et drôles et complètent parfaitement les propos du guide, qui est à mettre dans toutes les mains des potentiels voyageurs et voyageuses. J'insiste là-dessus. Adultes comme plus jeunes.
Comme plus jeunes, oui. Mais c'était important de faire ce guide, parce qu'effectivement, il y a une espèce d'engouement là qui parfois peut être un peu limite, on va dire.
Exactement, et ça en particulier dans les pays d'Afrique, notamment au Sénégal, on voit beaucoup de choses qui se passent et c'est important aussi, sans en décourager, d'alerter aussi sur ces dérives. Et j'en profite aussi pour préciser que le guide est accompagné d'une expo depuis peu qui peut être vendue ou louée à Ados. Si cela vous intéresse, toutes les informations sont à retrouver sur le site de Rétimo. Pour finir, quelques mots sur le livre de Julien Blangras, Paradis avant liquidation. Je l'évoquais brièvement tout à l'heure, depuis quelques années, des générations de jeunes gens des classes moyennes entreprennent d'arpenter le monde, souvent en avion, pour aller voir l'autre bout de la planète. Julien Blangras fait partie de cela. Auteur globe-trotteur, il s'est donné comme projet de quadriller la planète pour voir le plus de pays possible. Aujourd'hui, l'idée semble saugrenue, peut-être même indécente, quand on pense à ce que ce type de voyage génère en termes de pollution, mais aussi en termes de mode de vie. En bref, on est bien loin des considérations de lutte contre les changements climatiques. Alors pourquoi je vous parle de ce livre malgré tout ? Parce que justement, l'auteur s'est rendu en 2012, dans l'état insulaire d'Océanie, les Kiribati, connu car susceptible d'être submergé très prochainement par les flots en raison du changement climatique. Il nous explique en début de son livre son projet. Et donc, pendant quelques semaines, l'auteur a ainsi parcouru les différentes îles de ce pays, a rencontré des habitants et des habitantes, des bureaucrates, des politiques. Ces différentes rencontres et excursions lui ont permis de livrer dans son livre une analyse assez fine et grinçante de la réalité connue par cet État qui alerte de façon plus ou moins efficace la communauté internationale face à cette disparition à venir. Si une petite pointe de condescendance peut parfois pointer le bout de son nez dans les propos de Julien Blangras, il n'empêche que son court récit nous donne l'opportunité de comprendre un peu mieux la réalité de ces populations soumises aux conséquences du changement climatique. Et il nous rappelle que ce dernier a des conséquences dramatiques, ici, là-bas, mais surtout maintenant. Donc, je voulais lire un extrait, mais je ne sais pas si j'ai le temps.
Si, ok,
c'est pour ça que je... Alors, au tout début de son livre, il nous explique. Vu d'Europe, le changement climatique est une menace abstraite. C'est quelque chose qui va arriver. Ici, ça arrive. En périphérie du monde, les Kiribati se trouvent aux avant-postes des enjeux environnementaux. Ce pays sous-développé est en avance sur le reste de la planète. Comme lors du passage à l'an 2001, quand du fait de sa position géographique, il fut le premier à accueillir le nouveau millénaire. À titre personnel, choisir ce sujet est, j'en suis persuadée, un mauvais choix stratégique. Difficile de trouver moins branché que les Kiribati. Qui s'intéressera à cet endroit encore plus éloigné que le bout du monde, dont le nom déclenche rarement autre chose qu'un « ou ça » dans les conversations. Soyons honnêtes, le changement climatique n'est pas une thématique sexy. Il vient de temps en temps remplir une case dans les journaux télévisés, celle de la prophétie anxiogène. La menace écologique globale stimule notre propension à l'indignation, salaud de pollueur, et tenaille notre mauvaise conscience d'hyperconsommateur. Tiens, moi aussi, je pollue. Elle active la culpabilité, posture en vogue dans un Occident travaillé à la fois par la honte de son passé colonial et par le masochisme hérité de sa culture chrétienne. On s'autoflagelle 5 minutes en songeant à la planète que nous laisserons à nos enfants, puis on va faire les courses. Tout bien pesé, je crois qu'on s'en fout. Autour des machines à café, on parle toujours de la météo, jamais du climat. C'est normal, les loyers sont intenables et nous n'aurons pas de retraite. Alors il faut bien établir des priorités. Le futur, on verra ça demain.
Ça a été écrit en
2012. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, le changement climatique est beaucoup plus central dans les médias. Pour autant, voilà, j'invite
dans
vraiment...
Dans les conversations.
Et dans les conversations. Météo, mais j'invite malgré tout les auditeurs et auditrices à se pencher sur le livre qui nous rappelle vraiment voilà, comment ça se dessine, en fait, le changement climatique et par quoi ça se traduit en 2012 et puis encore plus maintenant.
Merci beaucoup Jeanne et puis bel été, on te retrouve à la rentrée pour à nouveau les chroniques
Tout à fait. Et j'en profite aussi pour remercier toute l'équipe de m'avoir accueillie tous les 4e mardis du mois pour ma chronique Rétimodoc. C'était un vrai plaisir.
Et plaisir partagé en tous les cas.
Ainsi se termine cette locale sur les chapeaux de roue car il est 12h57. Merci à nos invités et à Clément pour la technique.
Et restez sur Radio BLV 93.6, bien entendu. La suite des programmes à 13h, le Grand Mag, le magazine décalé. Ce mois-ci, c'est vachement tough. Rediff de cette locale à 18h, bien évidemment. Vous pouvez toujours retrouver tous nos rendez-vous en podcast sur le www.radioblv.com. Et à 19h, musique de sac et de corde, une rediffusion de autour des musiques traditionnelles du Québec. Je me mélange les pédales. Et on finit à 20h15 avec Chansomania, l'émission de chansons francophones, comme son nom l'indique.
Et n'oubliez pas que vous pouvez suivre nos actualités et nous retrouver sur Facebook et Instagram @radioblv. À demain et d'ici là, portez-vous
bien. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.